supplément foot, le foot fauteuil électrique et le foot pour aveugles.
Je ne suis pas assez handicapé.
Et non, parce que le foot fauteuil électrique, il faut un certain degré de handicap avec un fauteuil assez familier en moteur pour pouvoir y avoir accès, puisque c'est un des seuls sports pour les lourds tétras ou paraplégiques. Après, certains sports où on peut mélanger du handicap plus léger et avec même des valides, parce que les valides peuvent jouer au basket, par exemple, fauteuil. Donc en foot, fauteuil, c'est vraiment très réglementé pour les compétitions.
Moi, pour ma part, la natation, il y a tous les handicaps sont représentés. J'ai même des sourds-muets qui font cours avec moi. C'est assez déprimant de les voir nager, parce qu'ils n'ont pas vraiment de handicap physique. Et ils sont carrément beaucoup plus rapides. Tu fais de la compète ou pas?
Oui. Mais je fais de la compète. Mais que avec des gens qui sont vraiment très lourds dans le handicap. Et je dis, je fais vraiment de la compète avec vraiment du handicap vraiment très lourd. Là, on ne mélange pas du tout la différence du handicap entre sourd, par exemple, ou quelqu'un qui a un handicap plus léger. La fédération ne veut pas, donc.
Et dans quelle discipline?
Le foot.
Foot fauteuil électrique.
Donc il faut être équipé déjà.
Oui. Mais souvent ce sont nos fédérations de sport qui nous financent nos fauteuils. Je pense que c'est un coût énorme. Parce que si on jouerait avec nos fauteuils de ville, entre guillemets, ben, si on les esquinte, après on n'a plus de jambes. Donc souvent, ben, soit qu'on récupère aussi des vieux fauteuils qui ne servent plus et que nous on peut en refaire des chariots pour la compète, comme on dit, que de les acheter neufs, parce que c'est un coût presque de 20 000 euros des fois. Et le mieux, c'est de récupérer des anciens fauteuils qu'on puisse modifier, parce que devant, on rajoute des grandes cages. Et c'est un coût moins élevé pour le club aussi, parce que les sponsors ne sont pas énormes dans le milieu du handicap.
Bon, l'équipement en piscine, c'est quand même plus simple.
Oui, ça c'est sûr.
Un maillot, un bonnet, des lunettes, c'est bon.
Parce que pour aller en compétition, des fois, de mettre les deux fauteuils dans la voiture. C'est un peu plus inconvénient, parce que ça se plie pas.
Après, il y a Geneviève aussi qui est bien placée pour parler de sport adapté.
C'est prévu que tout le monde puisse parler. Donc, à partir de là, c'est prévu. Puisqu'il vous donne la parole.
Moi, je suis la maman d'un jeune qui a 25 ans, qui a eu de gros soucis de santé et qui a un retard intellectuel avec des troubles psychiques. Et qui fait de la compétition un sport adapté. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'intégration, c'est vrai que le handicap physique, des fois c'est difficile pour trouver du travail, mais le handicap psychique, c'est aussi très compliqué. Très très compliqué parce que les employeurs ne comprennent pas souvent la situation. Et autant pour un handicap physique qu'ils arriveront à trouver des aides techniques, autant pour un handicap psychique, les troubles du comportement, et bien un jour ça peut aller bien, le lendemain ça peut aller moins bien. Donc les employeurs sont très réticents. Donc, faute d'avoir un travail régulier sur les stands, il s'est mis à la compétition, il fait de la natation, de la compétition nationale.
Il est très bon.
Il fait championnat de France.
Moi, j'essaye de me qualifier au championnat de France.
Il s'entraîne à 5 heures par semaine avec le GRM de Rennes, le sport adapté et le handisport.
Quand on s'est rencontrés, vous avez parlé que l'intégration, ça pouvait passer par le sport, mais aussi, comme madame le disait, par l'emploi. Francis
Par l'emploi, moi, je suis en pleine recherche de pas mal de choses, puisque je suis actuellement en formation au GLETA. Je fais un parcours d'orientation et d'insertion pour essayer de trouver le meilleur emploi, le plus adapté à mon handicap actuel et à mes possibilités aussi au niveau diplôme et tout ça. Et c'est vrai que il y a des secteurs de reclassement spécialisés pour les handicapés où on n'aura que des handicapés, ce qu'on appelle les centres de reclassement professionnel pour handicapés. Et pour ma part, ayant déjà goûté au CRP, je préfère le milieu valide pour me sentir plus intégré. Il y a plus d'échanges. Ça permet d'être avec des gens normaux, si je puis dire. C'est pas bien de parler comme ça. Je sais pas, toi, tu...
Moi, c'est pareil, je travaille avec des gens dans un milieu normal aussi, donc... Puisque des fois, les CAT ne sont pas toujours sur ce que nous recherche. On nous surclasse le fait des CAT aussi. Donc moi, je travaille dans un milieu normal, donc je dois m'adapter très facilement, parce que beaucoup ne sont pas accessibles aussi. Donc je dois toujours prévoir les lieux où je travaille, parce que je travaille jamais au même endroit. Donc, mais c'est vrai que d'être au moins en contact avec des gens, entre guillemets, normaux, qui ne sont pas dans le handicap, ça me permet aussi d'échanger sur autre chose que tout le temps du handicap. Parce que dans les CAT ou dans des milieux protégés, on discute que de ça, de fauteuil, de jambes, de choses. Donc on voudrait sortir de ce monde-là et discuter comme tout le monde de notre vie de couple ou de notre vie d'extérieur que du handicap. Hein.
Vous aviez déjà un emploi avant votre accident?
Oui. Mais j'ai complètement changé de reconversion puisque dans mon milieu je ne pouvais pas continuer.
Ah, c'est pas votre employeur qui a adapté le poste?
Si, il avait adapté mon poste, j'ai continué pendant 2 ans, mais comme j'étais en boulangerie-pâtisserie, c'était pas évident de travailler dans ce milieu en étant en fauteuil. Donc j'ai rechangé de métier pour dire de ne pas rester à rien faire, mais sinon je serais restée, mon patron avait tout aménagé pour que je puisse continuer à travailler avec lui. Mais après, pour des questions d'hygiène, en boulanger, pâtisserie, en fauteuil, c'est très compliqué. Et les dangers du four, donc on change de métier, de toute façon.
C'est pareil, je bossais essentiellement dans la manutention, donc c'est un peu cuit. Je pars sur des formations d'agent d'accueil ou de conseiller clientèle. Des postes assis à un bureau.
Vous pourriez parler plus fort?
Ah, c'est gentil.
C'est un handicap aussi.
Ah ouais, c'est un handicap, c'est vrai.
Je disais donc, pour ma part, je travaillais essentiellement dans des emplois qui étaient très manuels et très physiques. Donc maintenant, je me dirige plutôt vers des emplois de bureau en tant que conseiller clientèle ou agent d'accueil.
C'est bien là, longtemps.
Faut pas hésiter à dire. Après, c'est vrai qu'il existe beaucoup de... Pour le handicap, il existe énormément d'aides et d'administrations qui gèrent toutes ces aides. Mais pour la partie information, c'est à nous vraiment de trouver chaque information par nous-mêmes, parce que il en existe tellement.
Mais souvent, si le problème, c'est qu'ils ne pensent pas qu'en étant handicap, on peut travailler aussi. Hein. Donc souvent, quand on leur dit qu'on veut travailler comme tout le monde, mais vous savez, vous êtes dans un fauteuil ou vous êtes handicap, mais oui, et alors on a une tête, et quelle est la différence pour nous de... Donc souvent, c'est à nous de chercher à se reconvertir professionnellement, parce qu'ils ne pensent pas qu'on vient d'être accidenté, mais on veut continuer à vivre et être comme tout le monde, et pas qu'on nous mette dans des cases en disant, bah, là, vous êtes handicap, vous ne devez plus travailler... Et juste à faire du kiné ou juste à rester à attendre
que ça passe,
oui.
Je sais pas, c'est presque 10 ans comme ça.
Ah oui.
Ouais. Beaucoup, beaucoup sur informatique. Beaucoup d'informatique, beaucoup de jeux sur internet.
On va occuper nos journées.
Voilà.
Puisque ils s'occupent comme ça.
Ils sont longs. Ils sont en anglais. Parce que c'est vrai que quand on est accidenté, ben on va dans nos centres d'éducation. Et dès qu'on sort, on veut retourner lâcher en pleine nature. Et on n'a même pas ce qui s'appelle un manuel pour dire ben, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on est entré à la maison. On vous laisse dans un fauteuil et.
Petit à petit, on trouve.
Voilà, petit à petit, il voilà, faut tout réapprendre. Et... Il faudra un manuel dès qu'on sort des centres en disant voilà, qu'on peut faire. Et... Hein?
Le manuel sur un petit café modèle.
Ouais.
Si quelqu'un veut l'écrire.
c'est vous qui aurez
Avec l'expérience, oui. Parce que
à plusieurs, on pourrait.
Oui.
C'est une idée.
Ouais. Voilà. Et vous le vendrez à Chemin d'encre.
Pourquoi pas?
C'est vrai que dans tout ce qui est centre éducation ou autre, on est bien protégé. On a toutes les infos nécessaires quand on est à l'intérieur, malheureusement on nous met dehors.
On nous donne les premières directions à prendre, mais après c'est vrai qu'on se retrouve un peu tout seul. Et...
Oui, dans un monde inconnu complet, parce qu'on ne sait plus du tout qu'est-ce qu'on fait. On nous lève le matin, on nous met dans un fauteuil, on attend, on lève le soir, on nous remet couché. Mais à part ça, on fait quoi de notre journée? Et ben voilà, on n'a pas du tout de...
Puis ça me parlait que ça me coûte pour la société, parce qu'ils vont le laisser déjà dans la maison avec une éducation adulte à développer. Ça nous coûte quand même 800 euros par mois. Alors, si la personne, elle travaille, quand même, ça fait ça de la société. Mm. Même si elle travaille qu'un temps, même si elle fait quelques heures. Merci. Les organismes, moi je vois la nuit des âges, comme une fois, on m'a dit, travail, il y a une location, qui vit à son allocation.
Mais nous, ça l'entend beaucoup, les gens nous disent, mais pourquoi vous voulez travailler?
Voilà,
vous avez une allocation? Ils nous disent, c'est mieux que le RSA, vous êtes tranquille.
Oui.
Mais quoi notre place, même si on a l'allocation, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'ennuie aussi. Ça, on l'entend beaucoup, ça, des fois. Pourquoi vous voulez vraiment chercher du travail? Vous avez les allocations, arrivez à la retraite, vous avez votre retraite, vous avez rien à faire. Ils s'imaginent pas que nous, c'est pas ce qu'on veut non plus systématiquement. Hein.
Ah, puis le travail, c'est une belle intégration aussi. Ça permet de s'intégrer socialement et d'avoir du monde autour de soi.
Et donc, individuellement, quel genre de démarche vous avez fait justement en rentrant à la maison votre parcours pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui?
Pour ma part, j'ai passé 7 ans à jouer au poker sur Internet. Puis j'ai rencontré ma compagne et de là est venue l'envie de se dépasser un peu plus pour s'en sortir. J'ai intégré le club handisport pour une activité sportive dans un premier temps et dans un deuxième temps j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir retrouver une activité professionnelle. Ça veut dire inscription à Pôle emploi, comme beaucoup connaissent, inscription aussi à Cap emploi qui m'a orienté sur une formation que je suis en train de faire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse, énormément de coups de téléphone, mais ça vaut le coup au final.
Et vous ?
Ben moi, c'est 3 ans, puisque quand on déclare que j'avais une maladie après l'accident, et qu'on m'a dit que je ne vivrais pas au-delà d'un certain âge, d'un coup, je me suis dit non, moi, ma vie, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi juste parce que je faisais rien, et je veux voir ce qui se passe en dehors de cette maison, j'ai envie de vivre ce que je pourrais vivre avec cette maladie, puisque quand on nous apprend qu'on ne vivra pas au-delà, on veut découvrir ce qu'il y a au dehors et laisser notre marque aussi, que quelqu'un se souvienne de nous, pas parce qu'on était en fauteuil, aussi pour ce qu'on a fait aussi pour les autres, par exemple, et voyager, et voir le monde, ce qui se passe, parce que...
Donc l'orientation par exemple vers Cap Emploi.
Non, moi j'y suis pas.
C'est pas quelque chose d'automatique.
Non, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse par nous-mêmes. Ça part d'abord d'une envie et après c'est des démarches à faire par nous-mêmes. Ouais.
Ce que je veux dire, est-ce que vous en avez connaissance?
Oui, à force de se renseigner. Ouais.
D'accord.
Mais au départ, non, c'est pas des choses qui sont.
Au départ, c'est pas guiné. Ouais.
Voilà, quand on est valide et qu'on tombe dans le handicap, on se dit pas, ah bah il y a. Comment ça s'appelle, Cap Emploi, qui existe. C'est nulle part, c'est écrit, il faut vraiment qu'on cherche les organismes pour qu'ils nous aident à nous insérer quand on travaille avec les milieux normaux, pour savoir si c'est bien accessible, le nombre d'heures qu'on peut faire. Et c'est à nous, entre guillemets, de jouer aux devinettes, de deviner ce qui est possible dans les certains, comme Cap Emploi. Parce que Pôle Emploi, des fois, ne nous oriente pas du tout.
Oui, parce que j'étais à un colloque en fait, il y avait un colloque de 2 jours en novembre sur enfance et handicap, avec des témoignages assez poignants de parents, et donc j'étais à une des 2 journées, et il s'avérait que l'Aveyron, apparemment, est un département, entre guillemets, moteur en France il y a des gens qui sont venus d'autres départements, alors peut-être plus sur le thème de l'enfance. Hein.
Ah ouais, je ne sais pas du tout.
Des gens qui sont venus d'autres régions. Parce
que le problème,
mais justement, c'est pour ça que je viens entre guillemets, c'est pour ça que j'entends ça et que j'avais pas eu.
Le problème, c'est qu'à Marie-Grand, bon, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais si chaque personne individuellement ne va pas chercher l'info, pour l'AMDPH, qui est quand même l'organisme qui doit donner, je veux dire, quand on a un handicap, c'est eux qui, les premiers, devraient nous apporter l'information, ils ne nous l'apportent pas.
Oui, le seul truc qu'ils nous apportent...
Il faut que chaque personne aille chercher...
Ouais, la MDPH, la seule chose qu'ils nous apportent, ce sont l'argent, nos cartes de stationnement et les cartes de priorité. Le reste du temps, si on veut de l'emploi, c'est
alors
pas utile.
Ça devrait être à eux quand même.
Oui. Oui, la seule chose, c'est ça, qu'on a pas la MDPH, l'argent,
déjà,
les cartes, voilà, oui. Vous avez besoin d'une carte, vous allez chez eux, ça vous les avez. Vous demandez du boulot, on vous répond... Vous avez vu le degré d'handicap? Ben oui, mais bon, j'ai envie de travailler. Ben il y a un CAT où il y a ceci. Et donc, on ne nous oriente pas vraiment vers le travail comme tout le monde.
Ni en fonction de vos particularités, de vous.
Oui.
Avec le même handicap, on n'a pas les mêmes réactions, les mêmes envies, les mêmes possibles non plus.
Oui. Il devrait avoir un service vraiment spécialisé, qu'on puisse aller, qui nous dise... Tel organisme s'occupe de tel métier, on peut vous orienter et pas nous laisser en pleine nature.
Ce qui montre quand même qu'à la sortie des systèmes médicaux qui vous ont pris en charge après la déclaration de handicap, il manque quand même, je dirais, une assistante ou un assistant social qui, lui, s'occupe de votre intégration,
la réintégration,
l'insertion dans la société pour vous annoncer. Le panel, bien sûr.
Voilà, mais... ça n'existe pas.
Et ça devrait exister dans les centres médicaux, et qui ne voient que des gens comme vous,
oui.
Les centres médicaux.
Mais donc, souvent, ceux qui ont, par exemple, les informations pour le travail, souvent ce sont les personnes qui ont été en IME ou en institut en étant enfants, et qui grandissent, donc on les accompagne vers un métier, mais nous, en tant que santé, on nous laisse du jour au lendemain sans plus d'infos.
On passe de valide à handicapé, déjà, c'est un sacré changement.
C'est un sacré changement, et puis...
Alors moi, j'ai entendu parler d'un organisme qui s'appelle le SAMEP. Ça ne vous dit rien,
c'est pareil.
Là, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas juge d'Aveyron.
C'est l'organisme qui met en place des aides techniques pour l'insertion au niveau du travail.
Oui, je sais, ça s'appelle le service d'aide au maintien à l'emploi des travailleurs handicapés.
Donc,
c'est un service qui, normalement, s'occupe de maintenir le travail de gens qui sont devenus en situation de handicap pour cause d'accident ou maladie.
Pour les personnes qui ont déjà un travail et qui veulent revenir sur
le même lieu.
Voilà, pour l'adapter. Mais comme le Francis qui a été obligé de changer, comme madame, mais c'est pas le SAMEP qui va vous dire voilà, renseignez-vous là, renseignez-vous à tel organisme.
Oui, il faut déjà être employé quelque part.
Oui, voilà. Ou alors, quand vous allez, moi j'ai mon fils qui va être embauché dans une entreprise, donc le SAMEP va intervenir pour tout ce qui va être aménagement de poste. Parce qu'on va trouver l'entreprise. Mais c'est pas eux qui vont vous trouver l'entreprise. Voilà. Par contre, une fois que vous avez l'entreprise, oui, eux, ils peuvent apporter les aides techniques, tout ça, pour essayer au maximum que l'emploi soit adapté.
C'est vrai que personnellement, les deux organismes principaux que je connais, c'est la MDPH et la GFI, hein, c'est tout.
Voilà, mais la GFI et le SAMET, c'est pareil.
C'est pareil,
c'est traduire le sigle.
C'est plutôt qu'un travail.
Traduire le sigle AGFI, ça veut dire quoi, Geneviève?
Mais c'est le même principe, c'est des aides techniques.
Oui, c'est des aides techniques, oui.
C'est pour adapter le véhicule ou le poste
oui.
Dans lequel on
mais
est.
Mais le véhicule, il l'adapte ce que si on est salarié, oui. Ils le prennent en charge. Si on n'est pas salarié, ils ne financent pas l'adaptement de nos véhicules. Donc, déjà,
pour être salarié, il faut avoir le véhicule adapté.
Voilà, le problème, c'est que des fois, on veut aller travailler. Donc, il faut d'abord signer un contrat pour qu'on puisse leur demander l'aide du financement de nos véhicules. Mais des fois, pour se rendre sur le lieu, on fait comment? Parce que par ici, moi je sais pas, je viens d'arriver dans l'Aveyron et dans ma campagne où je suis, j'ai pas du tout de transport adapté. Donc si on n'a pas du tout le véhicule adapté ou autre, ben, en vérité, on fait comment pour aller chercher ce travail pour qu'ils nous donnent le financement?
Est-ce que justement Cap Emploi, au-delà de la réorientation professionnelle, il propose justement après des emplois, ou est-ce que ça va vous justement de les chercher?
Moi personnellement, là où j'en suis, de ce que je remarque, c'est vraiment à moi de faire la recherche en fait auprès de Pôle emploi et d'essayer d'en parler à Cap Emploi pour voir s'ils peuvent adapter quelque chose au niveau des contrats.
Parce que moi je me dis finalement, ben, je sais qu'il y a une loi, mettons, qui oblige les entreprises justement qui ont un certain nombre de salariés à embaucher un tel pourcentage de personnes en situation de handicap. Mais je me dis, ben, c'est con, mais moi mettons, je suis employeur, comment je les trouve, mes personnes en situation de handicap? Est-ce que justement il y a quelque chose qui
Cap
fait
emploi.
Que.
Cap emploi.
C'est ça, donc finalement il y a des offres.
Ouais.
C'est vrai, ils proposent que les ménages quand vous n'avez pas de niveau d'études tellement vous n'êtes pas très intellectuel, vous avez des soucis de santé, vous êtes à Pôle emploi et ils vous gardent 6 mois, ou de 6 mois ils vous envoient à Cap emploi. Cap emploi, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Ils vous proposent des ménages. Et ils vous proposent des ménages et en plus aller nettoyer les voitures à pièces de doc. Où est-ce que c'est?
Parce que nous dans le.
Où est-ce que c'est Et ils ne regardent pas si vous avez une voiture ou pas, si vous pouvez y aller ou pas, si vous y voyez bien ou pas, si vous pouvez la pousser ou pas. Il n'y a pas de.
Parce que moi je.
Faire des ménages dans les copropriétés, n'importe avec les palais et serpillères.
Le problème de cette loi, c'est que l'employeur embauche 6% du personnel. Soit reconnaissant, c'est pas qu'ils soient vraiment handicapés sur fauteuil, c'est des personnes qui ont une reconnaissance au travail d'un
handicap.
Pour quelqu'un qui a un petit doigt de main, s'il a un
handicap. Ah oui, c'est bon, il a reconnu un handicap dès qu'il a un doigt.
Il faut comprendre que les employeurs, ils préfèrent mieux prendre quelqu'un qui a un petit doigt de main que quelqu'un qui se ruche en roulant. Oui. Donc ils sont vite fait leur calcul.
Oui.
Et puis à l'heure actuelle, vous avez beaucoup d'entreprises qui font travailler les CAT ou des ateliers protégés. Et ça rentre dans le
répétit, dans le droit, qu'ils apportent. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, dans les 6%, quand certaines entreprises devraient avoir, par exemple, du personnel handicap, le diabète maintenant est considéré comme un employé handicap.
Donc,
voilà, alors par exemple, s'il a un monsieur qui l'a depuis des années et qui a le diabète, ben, ça, il a reconnu un travail handicap et voilà, il a son quota.
Voilà.
Et que nous, on nous met de côté et que lui, pour un diabète, ça faisait des années qu'il l'avait, ils ne sont pas plus occupés que. Ou autre. Moi, je sais que, par exemple, dans le Nord, on a carrément une boîte d'intérim qui prend que les personnes handicap. Et les employeurs savent où est-ce qu'il faut se tourner pour trouver du personnel avec un niveau d'études, mais qui a une situation de handicap. Bon, ici, je ne sais pas si ça existe. Mais nous, on a carrément une boîte comme ça et on peut laisser des CV et que les employés se tournent.
Et les employeurs qui s'adressent à cette boîte-là, c'est en majeure partie pour remplir leur quota de...
Des fois, ils préfèrent remplir parce que ça déduit de leurs impôts aussi.
Ah ouais.
Ça, vous le dire, ça c'est vrai.
Des intérêts financiers.
Voilà, aussi parce que c'est un intérêt financier, parce que pour eux, ça va déduire un peu de leurs impôts, et ils auront ce quota, et donc ils vont. Des fois, il y a juste des travaux à faire parce qu'ils ont un vieux toilette. Ils vont nous embaucher pour 2 ans, juste parce qu'ils doivent refaire un toilette, pour pas le payer. Donc comme ça, ils se disent, je l'ai employé, ils vont nous faire les travaux, et on paye pas. Et après, au bout de 2 ans, on nous met dehors. Et ça arrive souvent, ça. Pourtant, on ne fait pas attention à des choses toutes simples comme ça, mais on nous prend juste des fois pour faire certains travaux qu'ils n'ont pas envie de payer de leur poche. Mais je suis sûre, c'est vrai, ça me plaît. Moi, on m'a fait beaucoup ça.
Moi, il m'est arrivé une fois de postuler pour un poste et quand j'ai rencontré l'employeur et qu'il a vu que j'étais travailleur handicapé, il m'a dit qu'il préférait sincèrement payer une amende que d'avoir un travailleur handicapé au travail s'il avait déjà assez de mal avec les valides. C'est triste à dire, hein,
mais c'est courant.
Puis c'est fortement verbalisable aussi. Si t'as envie, tu peux te retourner contre l'employeur. Bon, quand tu sors déjà de...
Mais même, vous avez qu'à avoir des phrases sur une annonce. Vous leur dites pas que vous êtes handicap. Vous avez toutes les compétences nécessaires, le bac, tout ce qu'ils vous demandent, vous l'appelez. Ils disent oui, bah, le poste vous convient et tout. Et vous y allez en fauteuil. Ah non, je vous embauche pas. Le poste, il est pris. Vous rentrez chez vous, vous rappelez. Le poste est toujours libre. Et dès qu'ils voient le fauteuil ou le handicap, c'est même pas la peine. Et pourtant, on a des compétences pour le métier, de toute façon.
On appelle ça du délit de faciès.
Oui.
Ça fait la même chose avec la couleur de peau, des fois.
Oui. Ça, c'est sûr.
On sent, de toute façon, tu présentes le même CV avec dessus qu'il est marqué reconnu travailleur handicapé et un autre qui ne l'est pas du tout, tu n'auras pas du tout la même réaction en face. Moi, je suis en pleine recherche de stage en parallèle de ma formation. Et j'utilise jamais la même manière, tu le fais en fonction de la personne que tu as en face. Quoi. Tu,
bah déjà, ça se voit déjà.
Tu essayes d'amadouer la personne différemment à chaque fois. Et fonction de l'administration dans laquelle tu es, si c'est une administration officielle comme conseil général ou mairie, là tu peux ne pas hésiter à dire que tu es travailleur handicapé. Ça va être respecté déjà un peu plus que dans une administration autre. Et je vois pour le dernier que j'ai fait, c'était l'aéroport de Rodez. J'ai dit que j'étais travailleur handicapé et il m'a tout de suite demandé quel handicap, si ça allait pas poser problème. Il voit ça tout de suite comme quelque chose de négatif.
Très imposant, ouais.
Il pense pas forcément que la personne qui est travailleur handicapé n'a pas forcément un fauteuil roulant et
qu'on n'a pas perdu la tête.
Voilà.
Parce que souvent.
Au-delà des employeurs, peut-être une question sur le regard des personnes que vous avez qualifiées de normales. Encore, on pourrait en discuter. Sur le handicap, parce que là vous parlez des employeurs vis-à-vis de. Et de façon générale, quand c'est des collègues ou je sais pas, dans la rue à la limite, est-ce que vous avez des choses à dire, des témoignages
Au niveau des collègues, oui. Des fois, quand on est une équipe, par exemple, ils vont discuter entre eux, ils vont dire, bah, tiens, ce soir, on sort. Ils vont tous s'inviter entre eux. Et par exemple, quand on est dans un fauteuil, on ne sortira pas parce qu'ils ne nous le proposent jamais. Ils pensent qu'on ne sait pas s'amuser quand on est dans un fauteuil. Ou par exemple, quand il y a des sorties avec... plusieurs employés quand ils organisent les journées d'insertion ou autre, on ne sera pas avec eux puisqu'ils ont l'impression qu'on ne sait pas faire comme eux.
Et est-ce qu'après, suite à la question, est-ce qu'après l'accident, les regards de la famille, de l'entourage a réellement changé?
Ah oui, ça change. Hein.
De la famille, moi je dirais...
Des comportements.
Je dirais non. La famille, c'est, pour ma part, c'était la famille, donc... J'ai été très très bien encadré, très très bien épaulé et aidé dans tout ce que j'avais besoin. Par contre, c'est vrai que l'entourage amical a énormément évolué.
C'est bizarre parce qu'on perd tous les amis.
C'est tous ou presque.
Ouais, voilà.
Au fil du temps, on se rend compte qu'on a de moins en moins de monde et que on s'en fait de nouveau, mais. Tous ceux qu'on a connus en étant valides se dispersent petit à petit.
Et au niveau de la...
triste à dire, mais...
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que moi, au niveau de la famille, moi je vis dans un fauteuil, donc c'est un peu différent parce que tu es debout. Mais la famille d'un coup se met à nous couvrir pire que si on était un enfant.
Ouais, on devient un bébé.
On devient un bébé. C'est horrible.
Moi, je suis un bébé d'un mètre 99 quand même.
Moi, je vois que quand je me suis retrouvée en fauteuil et que j'ai dû rentrer des parts chez mes parents, le temps que je puisse faire construire quelque chose d'aménager, j'avais l'impression d'être un enfant. Mes parents voulaient tout le temps me donner à manger, ils voulaient tout le temps m'habiller. Ils avaient oublié que les choses, je les avais rappris pour le faire. Parce que nous sommes dans un fauteuil, oui. Mais après, on peut encore faire les choses par nous-mêmes, on ne redevient pas un enfant.
C'est quand même peut-être un peu dur pour eux de...
On n'a pas connu leur position à eux, donc c'est vrai que...
C'est vrai que c'est un peu dur, nous, dès qu'on sort...
Pour nous, c'est difficile, ouais.
Qu'un coup, ils se remettent à nous couver comme si on avait 4 ans.
Moi, ça m'a donné la volonté de remarcher plus vite.
Ouais, de me sauver de mes chez parents, moi. Parce que j'en pouvais plus. Et si je voulais sortir, par exemple, j'étais majeure, et si je voulais sortir après 8 heures, ils m'appelaient à peine tous les 10 minutes, savoir si j'avais pas besoin quand même de me repositionner, si j'avais pas soif. Et pourtant, j'avais juste perdu l'usage de mes membres et pas de ma tête. Donc c'est un peu dur envers la famille après, quand on en peut dans les tourteaux.
Mais ça veut dire que vous devez éduquer votre famille.
Ah oui.
Parce que c'est de la méconnaissance et c'est de la peur en tant que parent. Souvent,
oui.
Il y a de la peur
et
de la méconnaissance, ouais. Parce que tous les regards des autres, c'est de la méconnaissance.
C'est de la surprotection de la part des parents.
On est obligé de leur montrer que voilà, on est grand et qu'on arrivera à faire les choses par nous-mêmes. Si on a besoin d'eux, on peut s'exprimer. Donc. On peut faire leur demander, mais pas qu'ils nous couvrent comme ils le font, parce que une fois qu'on se retrouve dehors et qu'ils seront peut-être plus là, et ben comment on fera si on n'est pas assez autonome?
Il faut qu'on redécouvre la vie par nous-mêmes.
Oui, voilà.
C'est vrai qu'il y a pas mal de surprises.
Ah oui, quand ils veulent te donner à manger, c'est le pire. Et c'est vrai qu'après les amis, oui, ben d'un coup, on en a plein avant. La veille, on était avec eux, on sort avec eux. Et on est à l'hôpital, on voit personne passer de la journée, on se dit, bon, ils travaillent. On essaye de les appeler, ils nous répondent une fois, deux fois après c'est le répondeur. Et quand on sort, en vérité, on se rend compte bah, qu'ils nous ont complètement tourné le dos. Hein. Parce qu'ils pensent qu'on peut plus sortir, qu'on peut plus rien faire. Donc,
Ça change pas mal de monde.
Oui, c'est ça.
C'est la peur qui est présente.
On essaie de trouver des excuses tout le temps aux personnes qui
sont. Non, mais vous avez bien dû vous poser la question si ça avait été vous aussi. Mon ami. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre le comportement des gens qui sont.
Oui, c'est sûr, mais pour eux, ils pensent que. Déjà, moi, je suis jeune, donc j'ai fréquenté beaucoup de gens parce que j'étais malade au début, là. Ils pensent peut-être que dans un fauteuil, on peut pas aller en boîte, on peut pas rire, on peut plus boire, on peut plus rien faire, mais on est comme eux, donc.
Voir des fois pire.
Des fois pire, oui, voilà. Parce qu'on sait que la vie, elle va être. Qu'on profitera de la vie parce qu'on l'a, on vient d'avoir être excédé, pardon. Donc on va en profiter plus qu'eux. Et donc d'un coup, on nous met à l'écart parce qu'on pense qu'on peut plus s'amuser.
On va en profiter plus qu'eux, puis on va faire plus attention sur certaines choses que nous.
On faisait pas attention au départ.
On faisait pas attention au départ.
À quoi, par exemple?
C'est. Pour ma part, c'est en voiture. Je suis très très prudent, voire surprudent. Et sinon, bah, dans des. On a tendance à vouloir surprotéger aussi les gens qui n'ont pas connu ce qu'on a pu connaître. Bon. Après, j'ai pas vraiment d'exemple.
Oui, ça c'est sûr, puisqu'on se dit. Si on les laisse, par exemple, avec la fatigue et qu'ils s'endorment, est-ce que demain il sera comme nous en fauteuil? On aurait pu peut-être un peu plus les protéger, parce qu'on sait ce que la nuit nous attend quand on rentre fatigué ou bien ivre sur la route. Donc, on a plus envie de les protéger en disant faites attention, parce que vous savez comment je suis, et si vous faites le con sur la route, et ben, vous aurez le même cadeau que le mien. Donc,
pas facile à faire entendre à des jeunes. Moi, j'ai l'habitude de passer dans des collèges et des lycées lors des semaines de sécurité routière et parler aux enfants, c'est des ados pour la plupart, c'est vraiment difficile à leur faire entendre qu'il y a des dangers auxquels on ne pense pas toujours.
Non, puisqu'on est jeune et insouciant, on pense qu'on est indestructible. On a beau leur dire.
Comme je dis, hein, on comprend que quand ça nous arrive. C'est,
Oui,
là. Moi, j'avais une question, comment vous réagirez si vos parents vieux sont en fauteuil roulant?
Bah, le problème, c'est que moi, pour ma part, je ne pourrais pas m'en occuper, puisque je suis déjà bien arrangée, entre guillemets. Mais qu'ils vivent leur vie en fauteuil, d'accord, mais qu'ils soient heureux, c'est l'essentiel aussi. Qu'ils soient peut-être dans un fauteuil, mais qu'on ne les mette pas dans, entre guillemets, dans un placard et qu'on les oublie. Qu'on leur mette un fauteuil, mais qu'on les emmène surtout dehors et qu'ils profitent des derniers instants qu'ils pourront et qu'on les oublie pas, surtout. C'est surtout ça.
Je les emmènerai en balade comme moi, ils m'emmenaient en balade.
Ouais, c'est ça.
C'est parce qu'on a tendance aussi à les considérer parfois comme des enfants, à leur donner à manger.
Oui, mais après, être âgé, c'est différent des fois aussi que le handicap aussi. Non?
Je sais pas, moi, je suis un grand gamin.
C'était un peu pour rebondir sur l'attitude que vos parents avaient eue avec vous. Et que, en fait, après enfant, étant adulte, on a avec nos propres parents devenant âgés, on les considère parfois aussi à tort. Comme
ouais, mais des fois, le problème, par exemple, de nos parents, s'ils deviennent âgés, des fois, ils ont des soucis comme l'Alzheimer ou autre. Donc automatiquement, c'est différent que nous, on a juste perdu l'usage de notre combat épinier, entre guillemets, et pas de notre tête aussi. Donc on peut très bien réagir par nous-mêmes que ceux qui sont plus âgés, qui sont atteints d'Alzheimer, ils vont plus faire la différence sur l'âge qu'ils ont, que nous on fait la différence sur l'âge qu'on a.
C'est vrai qu'il y a un handicap pour handicap.
Oui.
Est-ce que suite à votre accident, des choses qui ont changé dans le quotidien physique. Est-ce que dans la relation humaine ou dans votre vision de l'existence, il y a des choses qui ont changé?
Dans la vie de tous les jours, faut arriver à à s'adapter à toutes les situations. Rien que prendre une douche, ça devient plus difficile. Donc, on s'adapte tous les jours. Tous les jours, on trouve un autre moyen de prendre sa douche un peu mieux. Moi, j'ai commencé à la prendre assis, avec une chaise adaptée pour la douche, et petit à petit à la reprendre debout, mais toujours en me tenant quelque part. Et sinon, avec les gens.
Mais quoi ?
Avec les gens. L'adaptation avec les gens, c'est d'essayer de se présenter comme quelqu'un de valide.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont trop infantilisantes
et si.
Mais comment faut les gérer, justement ?
Ah ben souvent, on leur dit. Et quand ils ne veulent pas comprendre, ben on rentre dans leur jeu et comme ça, ils nous fichent un peu la paix. Parce que des fois, même ce que certaines personnes valides ne se rendent pas compte, c'est que si on est accompagné de quelqu'un qui est valide à côté de nous, ne nous parle jamais à nous.
Il parle toujours à la personne valide.
Parle toujours à la personne valide en lui disant, entre guillemets, de nous traduire, mais on comprend. Donc ou sinon, on va nous parler comme si, moi je le vois souvent parce que je suis assez jeune en fauteuil et on me parle comme si j'avais 4 ans des fois. On me dit « Oh, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a, bobo ?» Et ben on leur dit « Non, mais désolé, mais je suis adulte quand même. Hein. »« Ah, parce que vous parlez ?»« Ben oui, je parle. » Et donc, d'un coup, ben, ça les tient un peu des fois. Faut aussi, des fois, savoir l'air me mettre, entre guillemets, à leur place et leur montrer qu'on peut très bien comprendre. Mais souvent, on nous parle, oui, surtout moi en fauteuil. Je sais pas, toi, tu es plus debout, mais moi en fauteuil, je le ressens souvent à ça. Hein.
Non. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que, en fait, des handicapés, parce que notre système est comme ça, on n'en côtoie pas tellement, parce qu'en France, on n'est pas du tout adapté à ça.
Mais je pense aussi le fait, c'est qu'ils nous mélangent tous dans le même sac.
Parce que quand on va, par exemple, en Angleterre, on a l'impression qu'il y en a 10 fois plus qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'on peut rouler dans les rues, on peut prendre le bus, enfin, tout est fait pour que la vie des handicapés soit quand même, me semble-t-il, un peu plus ouverte sur le monde extérieur.
C'est vrai que pour moi...
En France, c'est vrai que... Enfin, allez à Rodez et prenez avec un fauteuil un bus. Je ne sais pas si ça se fait.
Ah si, c'est bien pratique.
Si.
Je pense qu'il se garde correctement. Ce qui est fait en France, c'est que justement... C'est mon expression, mais on les enferme loin de tout, voilà, mettant les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on va les mettre au fin fond des bois, dans une ancienne abbaye, où ils vont travailler au même endroit que où ils dorment, où ils vivent.
Ouais.
Puis même au niveau du handicap physique, c'est pareil, on les met à la campagne, parce que bon, finalement...
Mais il ne faut pas les montrer, c'est des
muscles pour certains endroits, malheureusement. Si il y a d'autres endroits à la campagne, c'est plus facile que de réaménager toute une ville.
Mais à la
finalement,
campagne...
ils sont cachés du monde, et puis...
Déjà, à la campagne, on se dit comme ça, ils n'ont pas besoin de sortir. Ils n'ont pas besoin de voir personne, donc on va pas faire des aménagements. Entre guillemets, on les cache comme si c'était des monstres. Parce que maintenant, c'est vrai que maintenant ça commence à évoluer, on a plus d'accessibilité dans les villes. Beaucoup de villes commencent quand même à être aménagées pour qu'on puisse circuler librement. Mais dans certains endroits, non, le handicap, si on le montre, ça ne passe pas du tout. On sera regardé comme si on venait de sortir d'un zoo, je ne sais quoi, on nous regarde... Comme si qu'ils n'en avaient jamais vu passer du tout. Moi, je trouve qu'il faut sortir tous ces handicaps cachés et de montrer qu'on vit comme tout le monde, qu'on puisse juste aller chercher une baguette sans toujours être à la porte et dire bah, il me faudrait du pain et que la dame, bah, elle y va toute seule. Moi, je voudrais faire pareil, donc...
Oui, mais comme par hasard, il y aura une marche et votre fauteuil ne montera pas.
Voilà.
Et ça, je trouve que les exigences officielles pour rendre l'accès possible... Ils sont pas respectés. Enfin,
ça a été repoussé. Ça commence.
Ça a été repoussé.
Ça commence.
Oui, on vient de repousser.
C'est éternellement repoussé. Oui.
Mais ce sera tout le temps repoussé. Il y a toujours une excuse, le monument historique, le monument classé. Donc il trouvera toujours pour décaler la moindre chose.
Il va falloir qu'on se fasse inscrire comme monument historique, nous aussi.
C'est très, très compliqué.
En parlant de... Je pensais au film là, Intouchable, parce qu'en fait, finalement, tu disais que on ne voit pas, ou les gens qui te voient, ils te regardent comme ils sont un peu. En fait, on n'a pas l'habitude, voilà, c'est vrai. Donc, comme on ne voit pas beaucoup de gens dans cette situation, finalement, dans la rue, puisque voilà, les gens, ils ont du mal à se déplacer, donc ils restent pas mal chez eux, du coup, ça aide pas. Alors, je pensais au film là, Intouchable, qui a par
mais Intouchable, c'est un peu différent.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce film là, et je sais pas, qu'est-ce que tu par rapport à ce film, est-ce que tu penses, tu pense que
mais c'est ça complètement
quelque chose dans l'esprit des gens, parce que je crois que ça
peut-être de
bah, c'est vrai que quand le film est sorti, les gens
nous disaient on peut rire du handicap maintenant, je dirais. On peut plus rire du handicap maintenant grâce à un touchable.
Mais il faut aussi savoir que les gens, ils ont l'impression que quand ils ont vu un touchable et qu'ils nous voient, ils croient que notre vie, elle est aussi simple que le film. Mais lui, il a quand même une auxiliaire particulière qui le suit 24 heures sur 24.
Nous, ceci dit, en regardant le film, on en a conscience quand même. On se dit, le gars...
Voilà, et souvent, ce film-là, il a... c'est vrai qu'il est, il a été très bien fait. Mais le seul souci, c'est qu'ils n'ont pas monté la réalité de ce que c'est une personne en fauteuil. Parce que là, il a quand même une voiture particulière. Il est tout le temps assisté. Et que nous, on n'a pas cette chance d'être assisté du 24-24. Si on a un véhicule, il faut qu'on arrive à le conduire nous-mêmes, parce que notre auxiliaire, on ne l'a pas toute la journée pour nous. On le voit avoir des grandes pièces très larges. Nous, ce n'est pas le cas du tout. Je ne sais pas. Ce film, c'est vrai qu'il a été très bien fait, mais au niveau du... Voilà, c'est parce qu'il y avait de l'argent. Mais nous, si on avait la même somme, c'est sûr qu'on serait heureux, parce qu'on aurait l'accessibilité qu'il nous faudrait.
J'aurais la même voiture que lui.
Ils ont...
toujours.
Voilà, le regard a changé, mais les gens, certains me disaient, vous avez de la chance, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous tout le temps. Mais non, bah, ils ont vu ce film, et ça a été différent de...
Ça a fait changer le regard sur certaines choses, mais pas sur tout.
Oui, voilà, parce qu'ils ont l'impression qu'on a cette chance d'avoir des grandes chambres avec... la salle de bain juste à côté, qu'on nous lève, qu'on nous lave.
Ah, parce que les gens, ils ont cru que c'était pour tout le monde comme
ça. Ah oui, oui, il y en a beaucoup, oui, oui, il y en a beaucoup qui ont cru qu'on vivait comme un touchable, hein, de toute façon. J'aurais dit, si vous voulez, on n'a pas les grandes porches comme ça qui s'ouvrent, on n'a pas une auxiliaire branchée avec nous 24
heures. J'ai eu une aide à domicile pendant longtemps, mais je l'avais 3 heures par semaine. Et ça, les gens croyaient que je l'avais non-stop, quoi.
Moi, j'ai de la chance d'avoir mon psaume, je suis mon mari.
Maintenant, j'ai plus d'aide à domicile, j'ai une femme.
Moi aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est parce que c'est mon mari qui s'occupe de moi tout le temps. Sinon, ce serait pas vivable, mais une auxiliaire de vie, on l'a 1 heure le matin, elle nous lave à une vitesse très rapide. On la revoit le midi, on nous livre un plateau, on vous dit voilà votre repas, ben, c'est pas appétissant, et vous la voyez le soir. Donc avec le film, c'est vrai que ça...
Ça passe mieux.
Ça passe mieux, mais bon, c'est vrai que si on avait ça, on serait heureux, nous.
Ouais, c'est clair.
Je pense que l'objectif, c'était peut-être pas spécialement... Bah, c'était déjà d'aborder le handicap. Maintenant, il y a de plus en plus, au-delà d'intouchables, de films qui abordent oui, le handicap. Sûr. Parce que c'est vrai que quand on parle du handicap, on pense spécialement une personne en fauteuil. Oui. Puis, mettons à la famille Bélier qui est sortie...
Je l'ai pas vu encore, il paraît très bien.
Voilà, c'est ça. On sent que c'est des films qui marchent, les gens commencent à se sensibiliser. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas demander à une personne qui ne connaît pas le handicap de dire « Bon, ben regarde, t'as vu ça maintenant, let's go. Tu vas aller voir des personnes sur son handicap, tu vas aller faire ta vie avec eux, ça va devenir tes amis, puis tout ça. » Je pense que l'idée, c'est de les sensibiliser, de savoir que ça existe, que c'est pas des gogoles, que... Puis voilà, c'est ça. Puis même la série Vestiaire ou quoi que ce soit, ben, ça montre aussi que justement, ben, ils sont pas spécialement chez eux.
Justement, il n'y avait pas tout ça avant. Il y en a de plus en plus de ce genre de série. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est... Le handicap en lui-même n'était pas aussi bien représenté. Et c'est de plus en plus comme ça maintenant, donc tant mieux.
Mais est-ce que vous trouvez que les représentations sont réalistes ou que ça a tendance à tomber vers le...
C'est surjoué.
Héros, oui. Tout le temps positif, que c'est beau.
Oui, c'est plutôt comme ça.
Oui. Oui. C'est un peu trop comme ça.
C'est un peu trop comme ça. Ça montre pas la réalité, en vérité. Ça montre... Avec le mec, il est en fauteuil, mais il est tout le temps heureux. Et qu'ils ont oublié qu'on n'est pas tout le temps heureux parce que... Il a pas de kiné, il a rien, tranquille. C'est vrai que c'est...
On voit pas tous les aspects négatifs.
Ouais, c'est surtout ça, oui. Ils ont dû en mettre un petit peu pour aussi montrer que la vie n'était pas rose.
Enfin, moi, je suis vraiment frappée par votre morale, votre humour. Bon, je pense peut-être vous ne faites pas tout la comédie ce soir. J'ai l'impression que vous êtes heureux.
C'est aussi les gens comme vous qui nous font être comme
alors,
ça.
Justement, enfin, la question que je voulais poser, c'est... je suppose qu'au moment de l'accident et les mois qui ont suivi, ça doit être le choc moral et remonter de ça. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ça pour en arriver? Je trouve que je suis ébahie par
le résultat. Il faut arriver à puiser dans nos...
Entre guillemets.
Dans nos réserves.
Ouais.
C'est, ouais, pour ma part, hein, c'est l'entourage vraiment qui donne envie de se battre. Mmh. Pour ma part, j'étais en fauteuil roulant, je ne devais pas remarcher à la base. Je suis resté un mois et demi dans le coma. Quand je suis sorti du coma, on m'a dit « voilà, t'es en fauteuil roulant, tu ne remarcheras jamais ». Une fois que ça s'est encaissé, ça met un certain temps, c'est tout un cheminement. Et une fois que ça on arrive à l'encaisser, on se raccroche petit à petit à toutes les personnes qui sont autour de nous et on essaie de puiser un peu de force en chacun d'eux et on arrive à se relever d'abord moralement et ensuite physiquement pour ma part, tant mieux. C'est pas le cas de tout le monde malheureusement.
Est-ce que vous êtes accompagné au moment où on vous annonce ça? Est-ce que vous êtes...
Gros suivi psychologique, oui. Ouais. J'ai eu une neuropsychologue d'abord, et ensuite un psychologue, et maintenant un psychiatre. Ça m'arrive de rechuter un peu.
Ben, c'est vrai que c'est pas évident à accepter quand on nous met le mot fauteuil. Moi, je sais qu'ils m'ont laissé dans un lit pendant presque 14 mois total allongé. Et quand on nous met juste le mot « vous allez être en fauteuil, vous ne marchez plus », et on leur dit « non, moi je ne vais pas vivre comme ça ». Et puis on se rend compte qu'on a les époux ou la famille et qu'on se dit bah, « peut-être pour eux, je devrais essayer au moins de me battre un petit peu, qu'on puisse profiter ensemble de la vie ». Donc au départ, on accepte le fauteuil une heure ou deux par jour parce qu'on ne veut pas sortir de la chambre. On se dit « non, comment les gens vont nous regarder, qu'est-ce que les gens vont faire ?» Et au fur et à mesure, on y reste de plus en plus et... On s'accroche à la vie parce que moi je sais que j'ai passé des très lourdes périodes en réanimation ou autre et je me suis dit que le nombre de fois que j'ai eu d'arrêt, je me suis dit merde, la vie, il faut que je la vive maintenant parce que si demain ça s'arrête, ben, je serais restée dans mon lit comme une conne et j'aurais laissé tomber la famille et que ça ne se fait pas. Donc on s'accroche surtout pour eux aussi à vivre.
Pendant longtemps, personnellement, j'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour les autres. Petit à petit, tu réapprends à faire les choses pour toi.
Ouais. D'abord, à la famille, c'est le courage qu'ils nous donnent, et après, un peu pour nous, après, juste après.
Est-ce que vous témoignez souvent de ce que vous avez vécu, de soirées comme ce soir, ou dans des collèges, toi, principalement ?
Moi, personnellement, j'aimerais le faire tous les jours. Sincèrement. Mais comme je dis, on va puiser des informations à droite, à gauche pour le handicap. Mais il faut aussi aller puiser pour ce type de soirée ou de journée que je peux faire avec la prévention routière, la sécurité routière ou d'autres organismes. C'est tout le temps à moi d'aller chercher l'info. Pourtant, ils me connaissent tous. Hein. Généralement, je fais ça avec la gendarmerie nationale, mais je ne suis jamais appelé. C'est toujours à moi de me renseigner sur quel événement va y avoir. Sinon, je suis volontaire, il n'y a pas de problème. C'est ma façon à moi de laisser une bonne trace, je dirais. Si mon expérience peut servir aux autres pour que ça n'arrive pas, c'est tant mieux.
Mais moi, oui, je viens d'arriver dans l'Aveyron, mais dans le Nord, j'ai aidé les jeunes qui étaient accidentés à s'accepter en fauteuil. On se rencontrait une fois par semaine le soir et on essayait, pas de se remonter le moral, mais de leur montrer qu'on peut vivre en fauteuil. On partageait pas mal aussi avec des familles qui venaient d'avoir des enfants accidentés, donc...
C'est malheureusement souvent des accidents de la route.
Pour ma part, oui.
Ouais, moi, c'est pareil.
Après, il y a pas mal de maladies aussi qui sont dégénératives.
Mmh. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'handicapés accidentés de la route, par exemple, dans les routes?
Karine, tu le sais?
J'en ai aucune idée,
moi. Moi, je sais pas.
Mais enfin, l'APF, c'est pas ça? Ça craint, quoi. moi, j'ai une statistique. L'endormissement au volant est la première cause de mortalité sur autoroute.
C'est
votre cas, c'est ce qui s'est passé pour vous.
Moi, c'est pas sur autoroute, mais c'est un endormissement au volant, ouais, à 9h30 du matin. J'allais travailler toute la nuit. Donc, faut faire gaffe, faut s'arrêter dès que vous concentrez à la fin. Son endormissement au volant, c'est arrivé, je pense, à la plupart d'entre nous. Mmh. On a tous connu une expérience de « je ferme les yeux, je les réouvre ».
Mais quand on les rouvre, on se rend compte qu'on est dans un arbre, des fois. Parce qu'il est trop tard.
Moi, je ne les ai pas réouverts.
Moi, c'est ce qu'il m'a dit, le routier. Parce que moi, c'est un accident avec un poids lourd contre une moto.
Contre une
moto.
quand il s'est réveillé, la première chose qu'on va réaliser, il m'a dit je suis dans un arbre, et en tout, il nous est rentré dedans. Et il s'est endormi, voilà, parce qu'il n'avait pas respecté les fameux disques d'heure légales. La première chose qu'on a envie d'entendre quand c'est un accent comme ça, c'est juste pardon, et mais non.
Il ne s'est pas excusé ?
Non. Non, la seule chose qu'il nous a dit, j'ai des enfants et je devais travailler pour les nourrir. Et je lui ai dit, c'est pas une raison de plus parce que vous en sortez quasiment sans rien et que moi, ma vie, vous me l'avez brisée. Donc, vous avez beau avoir des enfants, mais si vous aurez respecté votre quota d'heure, par exemple, ça n'aurait pas arrivé, ça aurait pu être vous qui soit cloué dans une chaise et vos enfants, ils auraient dit quoi ? Ça arrive souvent qu'ils ne respectent pas leur quota.
Après, faut pas dramatiser.
Non.
On va bien. Tu sens comme l'ambiance, elle a...
Justement, moi, je trouve que vous avez beaucoup d'humour.
Il faut...
Excusez-moi. Vous avez beaucoup d'humour et je me demande si ce serait pas possible pour avoir de meilleures relations avec les gens normaux, entre guillemets. Si vous ne pourriez pas essayer de monter un journal ou un petit peu satirique, justement pour montrer votre vision à vous, de ce que sont les gens normaux.
C'est très dangereux le journal satirique par le temps qui court.
C'est pas grave.
Mais c'est vrai qu'il nous faut cet humour. Parce que quand on se prend certaines questions dans des lieux publics qui sont sur notre vie privée ou intime, si on n'a pas cet humour, on ne sait plus où se mettre, des fois. Hein. Parce que des fois, les gens, sans gêne, ils nous demandent même nos relations sexuelles en plein magasin. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on est tétra ou paraplégique, donc certaines parties de nos corps ne sont plus, donc ils veulent savoir notre vie. Et si on n'a pas cet humour, on ne sait pas où se mettre. Hein. Donc on est obligé d'avoir un peu d'humour aussi, parce que il faut leur, en plaisantant, essayer de les recaler en leur disant
mais les choses.
Mais je pense que
c'est... Oui, c'est le genre de...
Ouais, c'est, le genre que
c'est tout à fait le genre.
Et vous, la dernière position?
Je pense que justement, cet humour-là, c'est une arme pour arriver à faire comprendre aux autres la difficulté dans laquelle on se trouve. Si Charlie faisait ses caricatures, c'était pour dénoncer un certain nombre de choses. Et je crois que ça peut se faire dans le sens handicapé vers les gens qui vivent leur vie normale. Parce que justement, les gens qui vivent leur vie normale, vous parlez de ça tout à l'heure, qui vous ont laissé tomber, ils n'ont peut-être pas la capacité de comprendre la situation dans laquelle vous êtes et l'évolution que vous avez eue. Donc c'est peut-être aussi un facteur de séparation.
Oui.
Et pour rapprocher ces choses-là, je pense qu'il faudrait justement se servir de l'humour.
Oui, oui.
Parce que... Je regrette, mais tout à l'heure vous avez dit que ça commence à tomber. Effectivement, si on ne parle que de choses d'une tristesse mortifère, les accidents de voiture, les endormissements au volant, c'est pas comme ça qu'on arrivera à discuter. Quoi.
Oui, ben oui, c'est sûr.
Mais est-ce qu'avant votre accident...
Je vais vous prendre comme rédacteur en chef.
Ok, non.
Excusez-moi, est-ce qu'avant votre accident, vous aviez ce tumeur et ce tragique de vie?
Moi, je l'ai toujours eu.
Voilà.
Donc je voulais pas la perdre parce que je me suis dit que ça ferait la force de cacher ce qu'on souffre aussi parce que on a beau rire et être heureux mais notre vie n'est pas tous les jours comme ça. Donc ça permet aussi de cacher un peu les choses et...
C'est pas l'accident, c'est votre handicap qui vous a fait
Le
métier déjà avant.
Oui.
Voilà.
Moi je m'appelle Pardon, alors j'ai eu de l'humour déjà dès la naissance. Ben, j'ai toujours eu de l'humour et j'ai toujours ri. J'ai un humour très noir aussi. C'est assez marrant des fois. C'est pas tout le monde qui a la même perception, je dirais. Mais je pars du principe qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est bien connu.
Mais une fois qu'on arrive à rire sur notre handicap, c'est qu'on a reçu à s'accepter aussi.
Oui, c'est ça.
C'est qu'on a franchi un pas. Et donc on a reçu à s'accepter puisque on rit de nos propres blessures, de nos trucs.
Ouais, faut arriver à faire le deuil
de la vie d'avant.
De la vie d'avant, du corps d'avant et des gens d'avant.
En gros, on meurt et on renaît et on refait une vie comme si on n'avait jamais vécu. C'est souvent comme ça.
Si, si, moi, mon accident, personnellement, je le sens comme une renaissance.
Mais moi, c'est pareil.
Je vois la vie différemment, je fréquente d'autres personnes. C'est une évolution. C'est pas une diminution. Des questions? Toujours rêvé de ça.
Vous êtes tous les deux donc handicapés issus de la
plus fort.
Vous êtes tous les deux issus, avec des handicaps qui sont la conséquence d'un accident. Il y a aussi ceux qui le sont de naissance. Quoi.
Oui.
Est-ce que vous avez des relations avec ce. Est-ce que vous sentez. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer, vu de l'extérieur, qu'il peut y avoir à la limite de deux sortes, ceux qui n'ont jamais couru finalement. Ou qui n'ont jamais eu une vie, c'est-à-dire normale, et des gens comme vous qui ont dû faire un passage, quoi, finalement.
Bah après, c'est un peu différent. On arrive avec eux à parler, mais on n'a pas la même. On ne peut pas rigoler sur la même chose. Quand nous, on parle de nos jambes qui nous manquent ou autre, eux, ça va peut-être un peu les gêner puisqu'ils n'auront jamais connu. Donc il y a certains sujets qu'on ne peut pas rire dessus avec eux, qu'on rigolerait avec. Entre accidentés ou autre, donc c'est. On les côtoie, mais pas avec le même humour, par exemple.
Mais vous pensez que cet humour-là, il est partagé par la plupart des gens qui ont été accidentés, ou c'est quand même.
Je pense pas.
Vous aviez déjà de l'humour avant, moi ça me paraît évident, parce que ça ne vient pas comme ça.
Non.
Ça vient certainement des philosophies de vie quand il nous arrive.
C'est différent mais... après sur chaque personne.
Mais je pense... les gens qui ont un handicap un jour, ils sont comme tout le monde. Il y a des grincheux, il y a des déprimés, il y a des joyeux, il y a des.
Vous me verrez le matin, donc... vous.
Non, mais je veux dire qu'ils sont pas.
Je suis grincheux aussi.
Oui, mais il n'y a pas plus de proportion de gens avec humour parmi.
Ah non, non, mais après, ça dépend comment les gens s'acceptent aussi.
Oui.
C'est une question d'acceptation et de.
Celui qui va se mettre dans une glace et qui ne va pas s'accepter, non, il n'aura pas cet humour, mais c'est tout.
Moi, tous les matins, je me regarde devant la glace, je me dis putain, que t'es beau gosse. Ça me permet d'avancer. C'est juste une question d'acceptation de soi.
Accepter ce nouveau corps déjà.
Et une fois qu'on a réussi à s'accepter soi-même, il faut arriver à se faire accepter des autres. Et ça ne peut pas se faire sans s'être accepté soi-même. Moi, je le vois comme ça.
Votre engagement sportif, qu'est-ce que ça change? Parce que les handicapés ne sont pas sportifs.
Du dépassement de soi. C'est
être comme tout le monde aussi.
Se sentir ouais, comme tout le monde.
Il y a beaucoup de gens qui font pas de sport. Hein.
Oui, c'est mieux que ça.
Oui, mais bon, quand. Quand on peut refaire juste du sport et qu'on a un ballon de foot et qu'on a des règles à respecter et qu'on a un arbitre. On a juste oublié le fauteuil le temps d'un match, quoi. Et c'est vachement agréable de ressentir comme si on était en libre comme invalide sur un terrain. Donc le sport nous permet d'avoir cette sensation de liberté pendant quelques heures, malgré que je ne quitte jamais ce fauteuil à part pour dormir. Et donc le foot, pour moi, j'ai juste des gens qui sont là pour nous regarder, donc ils oublient un peu notre fauteuil et on est libre. Quelques heures, donc c'est agréable aussi pour ça.
En dehors du sport, vous avez comme moyen pour avoir du lien avec d'autres personnes handicapées?
D'autres personnes handicapées, j'en fréquente pas beaucoup, j'en fréquente qu'une qui a été très, très blessée lors d'un accident de la route aussi. Il s'est endormi au volant pour raison d'alcoolisme. Et qui lui vit dans la culpabilité puisqu'il a tué du monde. Donc c'est pas pareil. C'est la seule personne invalide que je fréquente et n'a pas du tout le même comportement que moi. On rigole des mêmes choses, mais différemment.
Et avec le handisport, les contacts sont communs avec les.
J'ai très peu de contacts, moi, à part Simon. Qui venait, le fils à Geneviève, qui venait de temps en temps à la maison. C'est tout. C'est vrai que j'ai l'impression quand je vais en compétition, qu'on est chacun dans notre bulle et qu'on fait notre compétition et on cherche pas à savoir qui sont les autres. Et...
Y a pas du...
Moi personnellement j'aurais envie, hein. je suis trop humain comme mec. J'aurais envie de tout savoir des autres et de me lier avec tout le monde, mais c'est pas forcément possible et tout le monde n'a pas la même facilité que moi aussi.
Il n'y a pas le sentiment d'appartenir à un club, il n'y a pas le sentiment d'appartenir à une équipe.
Dans le club c'est un peu différent. Je suis le seul à pratiquer la compétition en handisport, natation. C'est vrai que ça serait peut-être un peu plus. Si les jumeaux ils pouvaient en faire un peu.
Il faudrait déjà que je pense qu'au niveau du handisport de l'Aveyron, il y ait une volonté d'amener des personnes à faire de la compétition.
Tout à fait.
Parce que je pense que le handisport de l'Aveyron, autant à une époque c'était la compétition en basket et tout ça, ils sont montés dans tous les niveaux, autant on a l'impression que les autres activités sportives sont un peu c'est du loisir.
Voilà.
Et ceux qui veulent en arriver à la compétition, ben, il faut un peu qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Je vois Francis, bon, il a du mal, quand il y a plein d'entraînements, à avoir un plan d'entraînement pour continuer. Bon, mon fils, j'ai été obligé de l'intégrer dans un autre groupe.
Ah, c'est vrai qu'en ce moment, il y a la vidange à l'aquavallon, donc pas d'entraînement pendant 2 semaines. C'est juste avant une compétition, c'est super.
C'est la piscine possible, un fauteuil roulant.
Ouais.
Ah ben, je pourrais y aller alors.
C'est compliqué, il faut déjà avoir un moyen de locomotion. Moi, c'est samedi, j'ai une compétition, je vais à Villefranche de Lauragais, au sud de Toulouse. Ça fait une distance, c'est tout à mes frais.
Et ça fait trois fois que
j'ai pas eu d'entraînement.
C'est pas normal. Si on veut que les personnes progressent et qu'ils avancent, bon,
j'ai qu'un entraînement par semaine avec le club. Il m'en faudrait déjà au moins 2, ça serait pas mal. Je suis pas trop exigeant.
J'ai plus d'entraînement, mais moi c'est la distance pour les entraînements qui est trop longue pour moi. Parce que moi, le seul club qui a du foot en fauteuil, ce sont Montauban en Toulouse. Donc les entraînements 3 fois par semaine commencent à devenir épuisants puisqu'on rentre très tard et on se rend pas compte, mais accumuler l'entraînement, même si on est assis dans un fauteuil juste à bouger un truc, c'est fatigant de se rester concentré. Et c'est vrai que dans l'Aveyron, oui, il faudrait qu'ils m'en mettent un par ici.
Oui,
vous êtes plusieurs dans l'Aveyron ?
Dans l'Aveyron, on est 3. On va faire les entraînements comme ça. Moi, je vais arrêter à la fin de la saison parce que la fatigue me permet plus après... Même s'ils me payent les frais de déplacement, mais accumuler autant d'heures de transport par jour pour y aller et rentrer, c'est pas très pratique, on va dire.
Par contre, pour tes remboursements de frais, Francis, tu fais un abandon de créance en fin d'année au niveau du même distance, tu réduis.
Et tes impôts.
Tes impôts, tu auras un remboursement des frais.
Tu m'expliqueras ça. Je ne suis pas trop copain avec les chiffres. Moi.
C'est pareil, on se fera passer.
C'est ma chérie la comptable, hein. C'est pas
c'est
moi.
C'est ma chérie la comptable, Non, mais c'est vrai qu'on veut que les personnes sortent de leur milieu, qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur et tout, mais à côté, c'est pas évident. Hein. Parce que même pour intégrer des clubs familiales, t'as essayé d'aller au master?
Non, pas encore. J'ai pas pu cette semaine.
Parce que même pour intégrer les clubs de la Ligue, bon, mais c'est vrai que c'est... On se bataille, quoi.
Je vais essayer le foot valide.
Je crois que tu vas avoir un peu de mal.
Pourquoi ? On va jouer au strict. En plus, notre ballon de foot, il est plus gros.
Ouais, je sais.
Ça, ils le verront mieux.
Il y a des clubs de filles, hein.
Nous, en handisport, les sports sont mélangés, filles et garçons. Heureusement, parce que sinon, on finirait à 2 joueurs des fois. Et il n'y a plus de catégorie d'âge.
D'accord.
Ça fait qu'on n'a pas, par exemple, certaines équipes de foot, ils ont des seniors, des jeunes. Nous, on est mélangés avec du plus jeune au plus vieux. Dans notre équipe, on n'est pas obligé. Et je trouve ça plus agréable d'être mélangé dans tout âge et filles et garçons en même temps dans la même équipe. Ça montre que les filles peuvent jouer au foot.
Thank you.
juste, je pourrais poser la question de savoir si on fait une pause là maintenant, parce que peut-être que vous bougeriez un peu, ça vous arrangerait un peu de prendre une petite pause, bon, peut-être un quart d'heure, mais et après reprendre, mais pas trop tard quand même non plus.
Oui, oui.
Parce que
10 minutes.
Oui, et on fait une pause de 10 minutes, comme ça, au bout d'un quart d'heure, on se retrouve. Pas de soucis.